Et le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation au Royaume-Uni aujourd'hui contre la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique pour 5 semaines? Une carte interactive annonce une 60aine de villes mobilisées. Précision avec Antoine Gignot dans un instant.
À Moscou, une semaine avant les élections municipales, une nouvelle manifestation interdite par les autorités est annoncée aujourd'hui. Nous rejoindrons notre correspondant en Russie, Claude Bruyot.
Un an après les émeutes racistes dans l'est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite, l'AFD, pourrait enregistrer des scores jamais atteints en Saxe pour les élections locales dont le vote a lieu demain. Reportage à suivre de Ludovic Piétenu. En France, nous irons dans un centre d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Ce centre ouvre ses portes lundi, un moyen de prévention alors qu'on atteint désormais 99 féminicides en France depuis le début de l'année. Et puis votre invité, Caroline Brouillet et Jean-Michel Blanquer.
À la fin de cette édition, nous retrouverons bien le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin jusqu'à 9h. Avec lui, nous aborderons les grands sujets de la rentrée des classes qui aura lieu dans 2 jours maintenant. C'est à vous, Sophie.
C'est un jour de colère au Royaume-Uni après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement pour 5 semaines. On attend des milliers de personnes dans les rues, un peu partout dans le pays, mais pas seulement. À Londres, les précisions d'Antoine Gignot.
Si vous fermez le Parlement, on ferme les routes. Voilà le slogan aux allures de menace que publie sur Internet l'un des organisateurs, pendant que l'écrivain Paul Mason, qui donne rendez-vous aux manifestants devant Downing Street, publie ce message vidéo « Que tu sois prêt ou pas, Boris Johnson, on vient te chercher ». Sur Internet, une carte interactive recense un peu plus de 60 manifestations dans l'ensemble du Royaume-Uni, à Londres, Glasgow, Leeds, Manchester ou Sheffield. Il y a même des rassemblements prévus à l'étranger, en Allemagne, en Belgique et jusqu'en Lettonie. Ce sont surtout les membres du mouvement Momentum, l'aile gauche du Parti travailliste, qui appellent à manifester, mais ils risquent de retrouver dans la rue les libéraux-démocrates, les Verts et plus généralement tous ceux qui veulent empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne. Leur plus grand défi reste de réussir à travailler ensemble.
Antoine Gignot, à Hong Kong, c'est une journée sous tension avec la crainte de nouvelles violences aujourd'hui. Les autorités ont interdit la tenue d'une grande manifestation pro-démocratie aujourd'hui. 3 députés ont été arrêtés hier et 2 leaders du mouvement des parapluies. Des personnes relâchées ensuite sous caution. Alors qu'à Moscou, un nouveau rassemblement interdit lui aussi par les autorités doit avoir lieu aujourd'hui. Cette manifestation vise à dénoncer la répression policière à une semaine des élections locales. Mais les opposants à Vladimir Poutine veulent aussi protester contre l'interdiction pour des dizaines de leurs candidats de concourir dans ce scrutin, Claude Bruyot.
Comme pour toutes les manifestations non autorisées, il est probable aujourd'hui encore qu'il y aura des arrestations et des condamnations à suivre. La différence avec les précédents rassemblements tient au fait que nous sommes maintenant à une semaine seulement de ce scrutin tellement décrié par les milieux d'opposition qui ne s'estiment en aucune façon représentés par des candidats autorisés à concourir. La pression sera donc plus forte des deux côtés à l'approche de l'élection et pour tenter d'y remédier, les organisateurs invitent les manifestants à se promener plutôt qu'à manifester réellement. Pour autant, 2 tendances se dégagent déjà. D'un côté, ceux qui prônent le boycott pur et simple du scrutin, de façon à rendre la participation la plus faible possible. Et de l'autre, ceux qui, comme Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, appellent à un vote protestataire contre donc les candidats du pouvoir, quitte à donner sa voix par exemple au Parti communiste qui représente une forme d'opposition à l'intérieur du système.
En marge de ces élections locales, une nouveauté, la Russie va tester le vote en ligne avec un risque fort de piratage, Claude.
Alors les autorités ont pris la peine évidemment de tester à plusieurs reprises ce fameux vote en ligne. 4 tests jusqu'ici ont été réalisés. Le dernier s'est déroulé après qu'une faille dans le système a été détectée par un chercheur du CNRS, Pierre Gaudry, rattaché à l'université de Lorraine. Selon ce spécialiste, il aurait fallu seulement 10 minutes à un pirate informatique pour obtenir la clé privée du système afin de suivre par exemple en direct les résultats d'élections russes. L'intéressé est récompensé par une somme de 13 500 euros pour ses travaux. Répondait au défi lancé par un organisme russe de surveillance des élections dirigé par Alexeï Venediktov, rédacteur en chef à la radio Écho de Moscou. Et d'autres récompenses du même ordre ont également été versées à d'autres détecteurs de défauts d'un système de vote en ligne qui risque peut-être après coup d'en rester finalement au stade de l'expérimentation.
Merci Claude Bruyot pour France Culture depuis Moscou.
Et nous partons maintenant en Allemagne où l'extrême droite pourrait enregistrer un score sans précédent demain.
Les électeurs de 2 régions allemandes, le Brandebourg Luxembourg et la Saxe sont appelés aux urnes pour renouveler les parlements régionaux. Dans ces deux régions, le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AFD, pourrait terminer en tête au second tour avec des scores inédits dans cette ex-Allemagne de l'Est devenue son bastion. En Saxe, l'AFD est dans le dernier sondage à 24,5% derrière les conservateurs de la CDU à 32%. Un duel à droite en Saxe suivi par notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Qu'ils soient électeurs de la CDU ou de l'AFD, ils ont un discours très agressif envers un nouveau concurrent, le parti qui monte ces derniers mois en Allemagne, mais qui peine un peu dans cette ex-Allemagne de l'Est.
Les Verts sont les pires. La protection de l'environnement, oui, mais de façon constructive, s'il vous plaît.
Parce qu'ils sont opposés à tout, s'agace Volker, qui a vendu des voitures pendant 28 ans. Autant d'années que la CDU est au pouvoir en Saxe, ce qui peut causer chez un électeur comme Volker une forme de lassitude.
J'ai déjà voté deux fois pour l'AFD.
Et il ne serait pas contre un gouvernement de coalition entre la CDU et l'AFD en Saxe.
Parce que l'AFD apporte des réponses constructives aux problèmes.
Anke, sa femme à ses côtés, acquiesce.
Ce que l'AFD a déjà mis sur la table est souvent très juste et il est important que tout le monde le sache.
Ces électeurs profitent du charme du jardin de ce restaurant et de la saucisse grillée offerte. Ils n'entendront pas, à quelques pas de là, l'appel du candidat de la CDU, celui qui dirige la Saxe depuis à peine deux ans, Michael Kretschmer.
Pour moi, il est important que cette élection du 1er septembre ne donne pas lieu à un vote de protestation contre Berlin ou contre Bruxelles.
Dans cette campagne très courte en plein cœur de l'été, la CDU, concurrencée par l'extrême droite, n'a pas cédé à la surenchère et s'est engagée à refuser toute alliance. Mais les deux forces politiques ont parlé des mêmes sujets, l'économie à la peine en ex-Allemagne de l'Est et la sécurité.
Ludovic Piétenu. En Inde, près de 2 millions de personnes n'ont pas été incluses dans le registre de citoyenneté indien finalisé par l'État d'Assam dans le nord-est du pays. Une annonce ce matin, ces habitants risquent ainsi de se retrouver sans nationalité et d'être éventuellement déportés. Les rassemblements sont interdits en ce moment. 17 000 membres des forces de l'ordre ont été envoyés en renfort depuis hier dans cet État de l'est du pays, Nabila Hamel.
C'est cet État frontalier du Bangladesh que le gouvernement nationaliste de Narendra Modi a pris comme premier exemple pour décider qui avait droit à la citoyenneté indienne. Un registre national des citoyens a été créé pour en faire partie les habitants originaires de l'Assam, État de 33 millions d'habitants, doivent pouvoir démontrer que ou leurs ancêtres habitaient l'Inde avant 1971. Une démarche particulièrement difficile dans cette région pauvre où beaucoup d'entre eux sont illettrés et peinent à fournir des documents comme des titres de propriété ou des actes de naissance. Ce sont surtout les populations musulmanes qui pourraient faire les frais de cette nouvelle politique. Pour l'heure, on ne sait pas combien de personnes pourraient être touchées. Certaines sources avancent le chiffre de 4 millions, ceux qui ne figureront pas, en tout cas dans la liste officielle des habitants considérés comme indiens deviendraient du coup des migrants illégaux, ce qui les exposerait soit à des arrestations, soit à des placements dans des centres de détention. Initiée par le Premier ministre et son parti nationaliste hindou, le BJP, la mesure a été relayée par les populations originaires de l'Assam qui faisaient également pression depuis des décennies contre l'immigration en provenance du Bangladesh, une immigration observé depuis la guerre d'indépendance de ce pays en 1971.
Nabila Hamel pour France Culture.
France Culture, il est 8h08, suite du journal de Sophie Delpont avec l'actualité française. Quel sera le calendrier pour la réforme des retraites?
Oui, la question est centrale en cette rentrée, alors qu'hier, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a déclaré que la concertation devrait durer près d'un an, amenant donc le texte dans l'hémicycle bien après les élections municipales, avant d'être recadré rapidement par le Premier ministre Édouard Philippe, qui a promis que le projet de loi sera examiné au Parlement dans les mois qui viennent. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Ministre de l'Éducation nationale, vous êtes l'invité des matins du samedi. Vous étiez hier en compagnie d'Édouard Philippe. Le calendrier de cette réforme paraît bien difficile à établir pour le gouvernement dont vous faites partie. Pourquoi ?
Parce que c'est un calendrier pragmatique qui tient compte des acteurs. Donc c'est, je crois, assez respectueux de ce qui est en train de se jouer, puisque tout au long des prochains jours, le Premier ministre va recevoir les représentants syndicaux des grandes confédérations. Et à la lumière de cela, il va s'exprimer, dans le courant de la semaine prochaine. C'est à ce moment-là qu'on commencera à avoir des éclaircissements sur le calendrier. Il est normal que toutes ces choses prennent du temps. C'est une réforme très profonde, très structurelle. On n'est qu'au début d'un processus, puisque le rapport Delevoye est un point de départ, plus qu'un point d'arrivée, même si c'est le résultat d'un très gros travail. Donc c'est tout à fait logique que le calendrier ne soit pas ne soit pas précis. C'est typiquement un sujet sur lequel il faut faire les choses bien, en prenant le temps nécessaire.
Il faut faire les choses aussi pour répondre à ces angoisses hein, qui pointent aussi évidemment parmi les professeurs. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Écoutons donc Francette Popineau, secrétaire nationale du SNUIPP. Elle demande des éclaircissements rapides sur cette réforme des retraites.
Concernant les retraites, il y a une grosse inquiétude parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne savent pas à quel moment ils vont partir, avec quel montant de pension, sachant que le premier degré ne bénéficie pas d'indemnité. Donc il faut là aussi que cela soit mis sur la table.
Que répondez-vous à ces inquiétudes, Jean-Michel Blanquer ?
Je qualifierais ça de question bien normale. Nous savons tous que, premièrement, la réforme des retraites est conçue pour un système de justice plus grande. Autrement dit, que tous les Français aient un régime de retraite correspondant aux mêmes règles du jeu. C'est le grand objectif et c'est ce qui fait sens dans tout cela. Ensuite, on sait que si on applique cela aveuglément, il peut y avoir des professions qui se trouvent lésées. Et c'est le cas des professeurs, et je suis le premier à le dire. Et vous imaginez bien que même à l'intérieur du gouvernement, je porte particulièrement ce fait. Et donc, on doit faire un travail pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et de ce point de vue-là, ce qui est parfaitement rassurant, c'est que et le président de la République et le Premier ministre l'ont déjà reconnu. Donc il y a déjà une réponse à ce que vient de dire Madame Popineau. Et la réponse, c'est que bien entendu, on ne rentrera pas dans un système de retraite sans avoir travaillé auparavant ces éléments de justice pour des métiers comme ceux de professeurs ou d'autres d'ailleurs. Mais donc c'est évident que l'objectif n'est pas une baisse des retraites en l'occurrence pour les professeurs.
Donc avec une petite augmentation de salaire peut-être envisageable d'ici la fin du quinquennat ?
C'est effectivement le raisonnement sur les augmentations de salaire est articulé avec le raisonnement sur les retraites. Puisque pourquoi est-ce que les professeurs risqueraient d'être lésés si on appliquait les choses comme ça sans avoir travaillé auparavant ? C'est parce qu'ils ont moins de primes que d'autres fonctionnaires. Donc on doit travailler sur ce sujet en particulier. Mais davantage. Dès qu'on se met à travailler sur ça, on travaille sur bien d'autres choses. Et donc c'est une occasion assez historique de travailler sur le professeur au XXIe siècle, ses droits, ses devoirs, son organisation et sa bonne rémunération. Ce sont des beaux sujets en réalité. Et donc au travers d'une grande question, on a tout un pacte social d'une certaine façon à conforter. Et je suis évidemment décidé à ce que ça permette de renforcer les professeurs et les personnels de l'éducation nationale dans ce 21e siècle.
Merci Jean-Michel Blanquer. Donc 870 000 professeurs ont fait leur pré-rentrée hier avant l'arrivée des élèves dans les classes lundi. Rentrée marquée notamment par la réforme du lycée, la scolarisation obligatoire des 3 ans notamment. Tous ces thèmes seront bien sûr au cœur de l'interview avec Caroline Brouet juste après ce journal. C'est une première en France, un lieu d'accueil de jour pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans victimes de violences sexistes et sexuelles est inauguré aujourd'hui, alors qu'on atteint désormais le nombre de 99 féminicides depuis le début de l'année. Ce centre ouvre ses portes à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Il est géré par l'association FIT, une femme, un toit, en collaboration avec les villes de Bagnolet et de Paris, le département de Seine-Saint-Denis notamment. Il doit permettre d'accompagner les jeunes femmes victimes de violences dans les deux arrondissements de Paris limitrophes, 19e et 20e. Et en Seine-Saint-Denis, Fiona Mogadam.
Prévenir les violences pour mieux les combattre, c'est l'objectif de ce nouveau lieu d'accueil et d'orientation. Ici, les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans et qui subissent des violences pourront trouver une oreille attentive, être orientées et accompagnées dans leur parcours pour sortir de ces situations. Elles seront accueillies par une coordinatrice et deux travailleuses sociales, spécialement formées sur le type de violences que peuvent subir les jeunes femmes, un public souvent très vulnérable et qui peut être confronté non seulement aux violences sexuelle et familiale, mais parfois également au mariage forcé ou aux mutilations sexuelles. Les jeunes femmes sont les premières touchées par ces violences, mais généralement les dernières à contacter les structures spécialisées pour leur venir en aide. Grâce à ce lieu, l'association FIT, une femme, un toit, qui gère aussi un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour jeunes femmes à Paris, espère repérer au plus tôt ces jeunes filles pour leur permettre de sortir le plus vite possible de ces violences, car bien souvent, ce n'est qu'après des années de souffrance que leur situation est connue. Pour cela, l'association entend s'appuyer sur de nombreux partenaires en Seine-Saint-Denis et à Paris, d'autres acteurs associatifs, mais aussi les établissements scolaires, maisons de quartier ou encore commissariats. 400 à 500 femmes pourraient être accueillies chaque année, un projet expérimental qui doit pour le moment durer 3 ans.
Fiona Mogadam pour France Culture. Un point de météo, du soleil partout ce matin, des températures en hausse avec 18 à 30 degrés du nord au sud au cours de la matinée, 18 degrés à Brest, 25 degrés à Paris, Lyon et Bordeaux, jusqu'à 30 degrés à Nîmes au cours de la matinée. De la pluie cet après-midi en revanche sur les Alpes et la pointe bretonne.